Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Giansetto, cofondatrice et présidente d'Ecotable. Ecotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Ecotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Ecotable. Bonne écoute! Qu'est-ce qu'un bon produit ? Alors que l'on arrive assez bien à dire qu'un produit est mauvais, en goût ou en composition, la réponse est moins évidente pour un bon produit. Est-ce un produit sans sucre, sans additifs ? Est-ce un produit local, équitable, bio ? Depuis quelque temps, la grande distribution tente de mettre en lumière certains produits caractérisés comme bons au profit d'autres. Avec ça, les Nutri-Score et labels se développent pour tenter d'aiguiller le consommateur dans ses choix. Des applications ont même vu le jour pour essayer de définir au mieux ce qu'est un bon produit. En parallèle, cette expression revient très fréquemment dans le milieu de la restauration. Ainsi, on entend bien souvent les chefs nous dire qu'ils font une cuisine du produit. De même, dans les émissions de cuisine à la télévision comme Top Chef, l'important serait de respecter le produit. Cette expression pose donc question et je voudrais essayer ici de la décrypter. Que faut-il entendre par bon produit ? Cette question, je la pose aujourd'hui à Alexandre Drouard, cofondateur de Terroir d'Avenir, distributeur alimentaire pour les professionnels et vendeur au détail pour les particuliers à Paris. Depuis 13 ans, le bon produit est justement le fer de lance de leur concept. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Est-ce que tu peux déjà te présenter ?
Oui, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Alexandre Drouard, j'ai 38 ans, deux enfants et j'ai cofondé avec Samuel Naon, Terroir d'Avenir en 2008.
Tu avais donc que 24 ans.
J'avais donc 24 ans, Samuel en avait 23.
Incroyable.
Disons que c'est une belle aventure. On a démarré ça, on s'est rencontrés en classe préparatoire en deuxième année.
Classe préparatoire pour quoi ?
À l'école de commerce, à Hélène Boucher. On a fait la même école dans le sud, à Nice. Et ce projet est né en dernière année d'école, un petit peu avant d'ailleurs. Au moment où j'avais entendu parler de l'existence de Slow Food, qui est une association qui milite pour la biodiversité. Je souhaitais faire un stage chez eux, ce qui n'était pas possible, parce qu'il était entre autres pas rémunéré, ce qui n'était pas compatible avec le prêt que j'avais engagé pour mes études. Et du coup, le projet est né en troisième année avec l'idée de créer une entreprise à impact, on va dire.
Faut que tu nous racontes ça parce que tu décides de faire un stage. Enfin, tu souhaites au départ faire un stage chez Slow Food. Ça veut dire que ta relation déjà avec la gastronomie et l'alimentation était forte. D'où ça vient ?
Alors la relation, non, je dirais pas la gastronomie, mais plutôt l'envie et le souhait, disons, de donner un sens à ma vie, à mon quotidien. C'est ce souhait qui nous a motivé avec Sam pour créer Terroir d'Avenir. Et disons que la découverte de Slow Food, c'est en tant que pur citadin et parisien, on va dire sensible à l'alimentation, sensible à la, on va dire à la cause effectivement alimentaire et des impacts qui en découlent, qui sont des impacts écologiques et sociaux. Cette association réalise un travail formidable et on découvre ce que c'est. Bon, on va en parler après. Hein, ce que c'est qu'un bon produit. Et effectivement, l'idée nous vient de faire connaître ces produits-là dans un premier temps auprès des chefs.
Et comment tu prends conscience de ces enjeux liés à l'alimentation ? Parce que t'es jeune quand même à 24 ans pour avoir conscience de tout ça.
Oui, c'est vrai. Mais disons que avec mon associé, on est sensible à ces questions-là parce que comme je l'ai dit précédemment, l'alimentation, en fait. C'est plusieurs enjeux à la fois. C'est un enjeu, ce sont des enjeux climatiques, ce sont des enjeux sociaux. Et à la base, on n'est pas du tout des gastronomes. On est, pour ma part, du coup, c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement familial où, voilà, mon père, qui est historien d'alimentation, voilà, m'a fait découvrir beaucoup de choses, dont notamment l'association Slow Food. Donc, il cuisine. J'ai trois frangins qui cuisinent, et donc on baigne un peu dans cet environnement familial. Mais pour autant, quand je suis ado, c'est pas des questions qui me, voilà, ça m'interpelle pas beaucoup. Mais arrivé en école, effectivement, je commence à m'intéresser au sujet. Mais c'est surtout que je m'intéresse à ce que je vais faire. Et Samuel, c'est pareil. On veut donner un sens à notre vie, et on veut.
Vous voulez entreprendre?
On veut entreprendre, et on veut, on est sensible à ce qui se passe, dans le monde de manière générale, et on se dit que les choses vont pas bouger si on n'y va pas nous-mêmes, quoi. Donc, c'est un petit peu ce rêve un peu fou de changer les choses, changer un peu le monde, voilà, mais on va dire très localement.
Mais comment arrive cette idée, du coup, de Terroir d'Amiens?
Comme je vous disais, on a été vraiment inspiré par le travail associatif de Slow Food, du coup, qui est une association qui est née en Italie, qui milite pour la biodiversité, qui milite pour cette agriculture paysanne, qui est pour nous le modèle qui répond le mieux aux défis de notre génération. Et c'est vrai qu'on est fasciné en tant que Parisien, personne qui aime pas du tout du terroir, nous, absolument pas. On est purement autodidacte, on est né en ville et on aime la ville, mais on découvre des choses absolument incroyables. Et il y a une espèce d'éveil qui se fait à ce moment-là quand on voit qu'il y a un véritable patrimoine qui est un peu menacé d'extinction, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que ces produits-là qu'on découvre sont pas disponibles, peu disponibles, voire, comme je vous dis, ils risquent de disparaître. Pourquoi ? Parce qu'ils rentrent pas dans le schéma agro-industriel d'aujourd'hui, qui demande des produits calibrés, qui demande des produits qui ont le même goût toute l'année, qui demande des produits pas chers. Et c'est, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais... je suis toujours autant 14 ans après, mais je trouve ça assez révoltant. Cette cause nous touche vite, et c'est un sujet qui devient majeur à ce moment-là. Donc, comme je vous dis, pourquoi
Terroir d'Amiens? T'as pas eu un déclic, quoi. Il y a pas eu un livre, un film.
Non, je vous dis, il y a eu cette découverte de cette association du travail qui est effectué avec les sentinelles qui sont des produits menacés d'extinction. Il y a tout un volet historique qui est passionnant. Il y a tout un volet social qui est révoltant. Et puis il y a aussi le plaisir de bien manger. Ça, c'est clair qu'il intervient. Et pour si vous voulez, très vite on comprend que l'alimentation, c'est pas une question de simple sujet de partage, de bien-être, de bonheur. Non, c'est un vrai sujet de fond, et qui très clairement aujourd'hui, c'est formules qu'on trouve un peu partout et qui sont tout à fait légitimes, mais on peut vraiment changer les choses avec une autre alimentation.
Et comment alors s'est construit Terroir d'Amiens?
Ça s'est construit avec Samuel au tout début. On rencontre des producteurs. Vraiment, je vous dis, on est complètement autodidacte. Et c'est pour ça que la question du qu'est-ce que c'est qu'un bon produit, on se l'est tout de suite posé. Parce que si vous voulez, il y a l'intuition, il y a le ressenti, mais en fait, on n'y connaît rien, quoi. On ne sait pas comment pousser un légume, on ne sait pas.
C'est rien. C'est drôle alors, parce que tu n'y connais rien, mais tu te dis, je vais vendre ces produits que je connais pas.
Parce qu'en fait, je pense qu'on a ce peut-être ce côté-là dès le début, cette énergie qui nous donne des ailes et qui nous rend capable de gravir des montagnes. Et ça nous fait pas peur de nous dire, non, en fait, ces produits-là, c'est presque une injustice qu'ils soient pas connus sur Paris. C'est une injustice qui disparaisse, et on va essayer de les sauver. Donc ça démarre comme ça. Donc on part au départ, c'est vrai qu'on est assez proche des Convivium Slow Food, du réseau Slow Food. Enfin voilà, on rencontre le président de l'association en France. On se déplace en Italie. Enfin voilà, on rencontre des membres et on commence à tisser un petit réseau de producteurs qu'on rencontre. Et on a tout ce qu'il faut pour pas être apprécié, quoi. C'est-à-dire qu'on sort d'école de commerce, on est parisien. On n'y connaît pas grand-chose, mais là, c'est l'aventure humaine qui démarre, et c'est quelque chose d'assez incroyable parce que c'est deux mondes qui se rencontrent, parce qu'on rencontre des gens absolument, enfin ça casse complètement tous les clichés qu'on peut imaginer. on n'avait pas beaucoup de clichés, mais on avait malgré tout, et ça c'est vrai que c'est quelque chose, je ne saurais pas dire pourquoi, mais on a cette fascination du monde paysan, un peu trop, c'est un peu parfois un peu naïf, même on se dit que c'est le voilà, que c'est presque l'homme parfait, on va dire l'artisan, l'artisan, le qui d'ailleurs je pense qu'il y a une formule que je trouve assez juste de dire que c'est le métier à dire suprême parce qu'on utilise ses mains et sa tête, et mais c'est vrai qu'on découvre ces gens là et on est fasciné parce que il y a, comme je dis, il y a un mélange de réflexion, la place de l'homme dans son environnement, quelle mesure, quelle est la bonne dose d'intervention pour obtenir justement le meilleur produit, l'histoire des terroirs, l'histoire des différentes régions. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que les aventures, les premières rencontres sont magnifiques, et on se dit, on revient sur Paris, gonfle un bloc, et on se dit, mais attendez, mais c'est on marche sur la tête, quoi. Là, c'est pas possible que ces produits-là qui polluent le moins possible, qui nourrissent le mieux possible, qui sont en plus excellents, qui font vivre un tissu social local, même régional et plus, puisse disparaître parce que il est soi-disant trop cher, ou il permet pas d'être transporté à l'autre bout du monde, où il est pas disponible toute l'année.
Donc c'est ces rencontres qui vous donnent conscience de tous ces enjeux. Et ensuite, pourquoi vous décidez de vous lancer pour les restaurateurs? Si l'enjeu c'est l'accessibilité du produit à tous, pourquoi d'abord les restaurateurs?
Parce que on démarre avec du navet noir de Pardaillan, du petit épeaut de Haute-Provence, de la coucou de Rennes, du vinaigre de Rancio, des produits que personne ne connaît finalement. Et que à ce moment-là, on se dit, mais attends, on se dit que ça va être compliqué d'aller convaincre les gens d'acheter ça. Et puis aussi, on n'a pas d'argent pour ouvrir un magasin. On a nos petites économies, on rembourse nos crédits, et parce que Salmé et moi, on a fait un prêt du coup pour financer les études, et on a 5000 euros de chacun qu'on met dans le capital. Ça nous sert à payer les premières commandes, et l'activité de grossiste ne nécessite quasiment aucun investissement. Donc c'est un téléphone, une petite camionnette, et puis c'est parti, quoi.
Donc c'est toi qui conduis la camionnette au début.
C'est ça, mais moi, c'est un jour sur deux.
Génial.
C'est chacun son tour.
Et comment, alors on en parlera peut-être après, mais ça m'intéresse quand même de te la poser ici, parce que on est dans le cadre des présentations, mais la logistique, comment tu l'intègres dès le départ, notamment la livraison de ces produits que t'as identifiés un peu partout en France?
La logistique est toujours une grande question, même aujourd'hui. C'est un sujet extrêmement compliqué parce que on se rend bien compte que il va falloir, le grand défi qu'on doit relever, c'est celui de créer un modèle économique compte tenu des contraintes qui sont notamment logistiques. Pourquoi ? Parce que on travaille avec des toutes petites structures, des toutes petits producteurs qui ont des petites quantités. Et pour répondre au volume, il va falloir multiplier ses fournisseurs, multiplier les références et multiplier les points d'acheminement. Et donc logistiquement, c'est tout de suite un casse-tête. Mais bon, voilà, comme tout casse-tête, on se creuse la tête et puis on trouve des solutions. Donc au départ,
c'est un entrepôt.
Non, on n'avait pas d'entrepôt. Au départ, c'était pas, on va dire que c'était un peu border, hein, parce qu'on n'avait pas vraiment d'entrepôt.
J'aime les histoires border.
Voilà, on stockait un peu dans
chez vous,
dans ma chambre, bref, c'était pas tip top. Disons qu'on était beaucoup en flux tendu. C'était surtout ça, en fait. Le frais et l'ultra frais. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. On était quasiment qu'en flux tendu. Donc, il fallait prendre du risque pour amortir les frais de port et trouver les solutions logistiques, les camions qui passent dans le petit village, qui acheminent la marchandise sur une plateforme régionale, qui acheminent la marchandise sur Rungis. Et nous, on allait faire les allers-retours pendant la nuit, récupérer les produits sur les plateformes logistiques et puis livrer dans la foulée des restaurants.
D'accord.
Donc, c'était ça. Mais il fallait... c'était assez... ça a été, en fait, si vous voulez, cette contrainte de flux tendu, ça a été notre grande force, parce que c'était un peu la promesse client de garantir un produit ultra frais, et c'est aussi ce qui a permis de développer l'entreprise, puisque il fallait commander des certaines quantités pour amortir les frais de port, mais ces quantités, on les commandait alors qu'on les avait pas vendues. Donc, il fallait vraiment qu'on se creuse la tête jusqu'à la dernière minute pour tout vendre. Parce que comme on n'avait pas de stockage, on n'allait pas rentrer avec les poulets et les cochons à la maison.
Vous avez vraiment été obligé d'être des commerciaux. À l'origine, vous étiez que deux là dans ces premiers mois?
Ouais, ça a duré longtemps. On était deux. Je me souviens plus précisément, mais je pense que notre premier salarié, c'est en 2010.
Donc 2 ans après?
En fait, on crée le projet démarre fin 2007.
D'accord.
En 2008, on rencontre les premiers producteurs. On sillonne la France pendant 6 mois. On crée la structure juridique en novembre 2008. Et on livre notre premier client en janvier 2009. Et je pense pendant un an, un peu plus, on est tout seul.
Vous faites le tour des restaurants, quoi, vraiment.
Tous les jours, voilà.
Ok, génial.
On connaît personne au début, hein. Mais les restaurateurs sont des gens qui ont quand même le cœur sur la main. Ils sont capables d'accueillir, de faire confiance. Ils nous ont ouvert les portes alors qu'on était personne.
Oui, et puis ils ont envie de découvrir ces produits.
Et puis oui, et puis alors, nous on est hyper surpris parce qu'on s'attendait pas à ce que ça marche. Le nombre de gens qui nous ont dit non mais laisse tomber. Ça marchera pas ton truc. Il y a Rungis à côté. Métro va ouvrir des produits de terroir. C'était heureusement qu'on était deux parce que il y avait des jours c'était dur.
J'imagine.
C'était très dur. On aurait pu arrêter. Ça aurait parce que c'est difficile quoi,
ouais.
Au début quoi.
Ouais. Du coup, je veux qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Votre objectif, ça a été tout de suite d'identifier ces bons produits,
ouais,
pour les livrer d'abord aux restaurateurs, puis ensuite aux particuliers. On reviendra peut-être après sur l'accessibilité aux particuliers. Mais du coup, quelle est ta définition aujourd'hui du bon produit et est-ce qu'elle a évolué entre 2007 et aujourd'hui?
Elle n'a pas beaucoup évolué. Elle repose pour nous sur 3 critères assez qui sont 3 critères un peu fondamentaux, mais que nous on place au même niveau. C'est à la fois le goût, l'impact environnemental et l'impact social. Dans le sens où un bon produit pour nous, il peut pas être dissocié de son modèle de production et de son modèle de rémunération. En tout cas, nous, ça a été ce qu'on a souhaité définir depuis le départ. Et c'est non sans contrainte qu'on a dû faire ça. Parce que aujourd'hui, le goût ne suffit plus et l'industrie a fait énormément de progrès. On est capable de trouver relativement des produits de bon goût et c'est tant mieux d'ailleurs que l'industrie ait fait des progrès. Mais derrière, ça ne suffit pas selon nous, en tout cas, chez Terroir d'Avenir, pour dire que c'est un bon produit parce qu'il faut mesurer les impacts qu'il y a derrière. Si c'est un produit qui a du goût mais qui détruit l'environnement, alors c'est un produit qui sera forcément contraint de disparaître. Si c'est un produit qui a du goût mais qui rémunère pas correctement le producteur, c'est pareil, il y aura plus personne pour le produire. Donc en fait, c'est indissociable pour nous de ces 3 critères. C'est toujours la question qu'on se pose aujourd'hui avant de faire entrer un nouveau produit. Et ça a été, si
et ça
vous
a
voulez,
toujours été le cas.
Ça a toujours été le cas. Ça a été le cas poussé à l'extrême. Ce qui a pu changer aujourd'hui, c'est notre vision des choses. C'est-à-dire que quand on démarre, quand on n'y connaît pas grand-chose, aujourd'hui, on se rend compte on en sait un petit peu plus, mais on se rend compte qu'on malgré tout, c'est des sujets tellement complexes que on n'a jamais vraiment fait le tour de la question. Mais on était très orthodoxe. C'est-à-dire que c'est binaire et l'agriculture c'est quelque chose d'assez complexe, donc
soit ça rentrait dans votre case soit ça ne rentrait pas, quoi.
Ouais, voilà, c'est toujours le cas aujourd'hui, comme je vous dis, il y a des choses très clairement, mais par contre je pense qu'on a eu j'allais nous faire un compliment, mais je pense qu'on a eu l'intelligence de pas rentrer dans cette logique de label qui est une logique complètement binaire et qui est pour nous aujourd'hui trop c'est fait pour simplifier, mais du coup, en fait, on rentre pas dans le détail et c'est nous ce qui nous intéressait depuis le départ, c'est de comprendre pourquoi, quelles sont les conditions pour obtenir un bon produit, comme j'ai dit tout à l'heure.
Ouais, mais alors, cette question des labels, moi, elle me passionne parce que même si tu veux pas rentrer dans les labels, ce que je comprends parce que le sujet est extrêmement complexe, tu es quand même obligé de te faire un peu une checklist. Ce qu'on fait, les labels, c'est-à-dire ce que j'entends par checklist, c'est-à-dire un cahier des charges, c'est-à-dire des go et des no-go sur le produit, sur l'impact environnemental, par exemple. Donc, toi, tu dis, tu as trois critères principaux. Goût, impact environnemental, impact sociétal. Goût, on comprend ce que ça veut dire à peu près, en tout cas. Impact environnemental, minimum, c'est, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que tu regardes concrètement?
Alors, quand je dis que quand je dis qu'on s'arrête pas au label, c'est que c'est pas un argument de vente pour nous. C'est que on a aujourd'hui 80% de nos produits en fruits et légumes qui sont labellisés bio. Les 20% ne le sont pas labellisés, mais ils le sont tout autant. Et aujourd'hui, le label bio ne garantit pas forcément le goût. Et pour plein de raisons, parce que le goût n'est pas un critère qui est obligatoire pour
dans, et objectif dans les labels, aussi.
Alors, il tend à devenir objectif avec l'expérience, avec la confrontation, etc. Mais il y a beaucoup de, enfin, si vous voulez, quand on travaille au début avec les chefs qui sont eux pour le coup pas forcément sensibles à cette question des labels, ils le sont de plus en plus. Mais au départ, ils n'étaient pas. Ce qui les intéresse, c'est le goût. Et le goût, comment on l'obtient sur les fruits et légumes? On l'obtient sur le variétal. Et le variétal aujourd'hui ne rentre pas dans le cahier des charges. C'est pareil pour l'élevage, en fait. Le goût, on l'obtient par la race et aussi par le mode d'élevage. Alors, le mode d'élevage est en partie, fait partie des critères de certains labels, mais la race n'est pas forcément toujours le cas. Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon. Donc nous, effectivement, on a créé notre cahier des charges qui est spécifique par famille, puisque je l'ai pas précisé, mais c'est aussi parce qu'on est passionné qu'on veut pas se spécialiser et on travaille sur toutes les familles de produits. Donc chez Terroir d'Avenir, on fait de la viande, on fait du poisson, on fait des fruits et légumes, on fait de la crèmerie, on fait des épiceries, du vin et du pain. Donc en fait, c'est un sujet qu'on veut toucher de façon un petit peu globale. Et chaque famille a ses caractéristiques et ses spécificités. Donc on a un cahier des charges qui est propre, qui interdit dans l'élevage, c'est bien évidemment l'élevage en bâtiment, l'élevage hors sol, les traitements intensifs, systématiques. On priorise, et ça c'est un mot qui est important, parce qu'on priorise le plus possible les races rustiques, les races locales. On peut pas faire que ça aujourd'hui pour répondre à la demande. Et quand c'est pas le cas, en fait, c'est le mode d'élevage qui est le plus extensif possible. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être une des solutions d'avenir. Mais bon, ça sera encore un autre sujet pour répondre vraiment pour permettre cette transition-là.
Et alors, attends, ça m'intéresse quand même. Qu'est-ce qui serait une des solutions pour la transition écologique? Ce serait un mode d'élevage 100% extensif?
Alors, c'est une très bonne question. Et c'est pareil, c'est une question qu'on se pose et qui revient beaucoup quand on sélectionne des produits. Si vous voulez, il y a chaque territoire a toujours connu ses variétés locales, ses races rustiques de volailles, de cochons, qui étaient bien acclimatées à un terroir, qui étaient acclimatées à une géographie, à un climat, à une alimentation. Aujourd'hui, la plupart de ces races-là ont disparu parce que elles ne répondaient pas à la demande de productivité exigée par l'agriculture intensive. Aujourd'hui, il est clair que le prix d'un produit dépend beaucoup de la main-d'œuvre et de critères productifs dans l'élevage, dans les fruits et légumes. Et donc, il n'est pas toujours, ces produits, certains produits sont des produits qui selon moi, resteront de niche. Certaines races rustiques, peut-être, resteront des produits de niche. Peut-être qu'une des solutions, je dis bien une des solutions parce qu'il n'y a pas qu'une solution, c'est peut-être de croiser un mode d'élevage complètement extensif. Avec des races qui sont peut-être un peu plus productives pour répondre à la demande. On a pas mal d'exemples pour ça, même si aujourd'hui on travaille quasiment que des races rustiques. On a un exemple dans le cochon. Aujourd'hui on travaille un cochon en Auvergne qui est élevé de manière complètement extensive pendant 9 mois. À savoir qu'un indus en industriel c'est 3 à 4 mois, en bio c'est autour de 6 mois. ce cochon est poussé à 9 mois. Et c'est un croisement entre un Duroc et un Large White. Un Duroc pour avoir du gras et un Large White pour avoir de la productivité. Je dis pas que c'est le seul modèle, mais ce produit-là, en fait, permet, garantit. Alors, l'élevage se fait sans OGM, sans antibiotiques, complètement en plein air, tout au long de sa vie. Et mis bout à bout, ça permet d'avoir un produit qui reste accessible et de très très grande qualité. Donc ça, c'est un des exemples. Mais il y en a plein. Ce que je dis là, c'est que on a fait une petite digression parce qu'à la base, c'était cette question des labels en fait sur le goût. Mais
oui, et puis du cahier des charges.
C'est-à-dire
que le terroir d'avenir a un cahier des charges. Oui,
on a dû se faire notre propre cahier des charges.
Qui est transparent?
Qui est pas vraiment transparent, qui est un outil en interne qu'on a édité en interne pour tous les collaborateurs, qui serait bien de remettre un petit peu à jour, mais c'est un peu la bible pour les acheteurs et pour tous les collaborateurs. D'ailleurs, il y a une telle confiance aujourd'hui dans l'entreprise, dans les choix de sélection des produits, que la question se pose même pas, quoi. C'est pas, on va pas d'abord regarder le cahier des charges pour sélectionner un produit. Non, on sait ce qu'on doit acheter. On sait ce qu'on doit trouver. Et donc, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a mis en place un cahier des charges inter pour prioriser dans l'élevage les races rustiques, pour prioriser, ne sélectionner que des élevages extensifs, donc tout le temps en plein air, interdire les OGM, interdire, les interventions chimiques quand elles sont pas nécessaires, valoriser les savoir-faire locaux, tout ça on l'a fait pour chaque famille de produits. Dans les fruits et légumes, c'est pareil, il n'y a pas de culture hors sol, il n'y a pas de produits, GM, il n'y a pas de monoculture sauf sur 2-3 produits. La taille des exploitations fait en moyenne 4 hectares, ce qui est tout petit. On priorise la diversification, on priorise les semences paysannes et populations quand c'est les producteurs qui les font eux-mêmes. Dans les fromages, c'est pareil, on priorise les races rustiques et les savoir-faire locaux. Beaucoup de fromages d'estive, ce qui est un savoir-faire qui est aujourd'hui quasiment disparu. Tous les fromages, 99,9% des fromages sont au lait cru, avec le plus de ferments autochtones et pas de ferments du marché. Donc voilà, si vous voulez, on a poussé les choses très très loin et c'est ce qui a fait que les chefs nous ont fait confiance dès le début et nous font confiance. Mais on l'a fait pas parce que on l'a fait par exigence et par volonté de bien faire. Parce qu'on s'est dit, mais en fait, pour que ça soit bon, il faut que ça soit le plus logique possible. Et le plus logique possible, c'est souvent le plus naturel. C'est souvent le...
Alors, il y a des critères qui me paraissent faciles à voir tout de suite. Évidemment, quand tu vas au départ avec Samuel faire le tour de France, de ses producteurs, tu te rends compte tout de suite de l'aspect extensif. Tu peux regarder aussi comment sont nourris les animaux, etc. Mais comment tu fais sur ces critères un peu plus insidieux, mais qui sont quand même aujourd'hui essentiels sur l'impact environnemental, qui est le traitement des cultures. Est-ce que tu arrives à garantir, malgré le fait que tu n'obliges pas tes producteurs à être en bio, le fait qu'il ne va pas y avoir de pesticides, par exemple?
Alors déjà, vous savez que dans le label bio, il y a des dérogations qui aujourd'hui autorisent les interventions. Et c'est le cas, il y a souvent des interventions dans l'arboriculture parce que c'est des cultures où il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de maladies. Ça, c'est la première chose.
Mais c'est des dérogations, ce n'est pas la règle, c'est exceptionnel.
Oui, mais quand vous avez une dérogation de 5% d'intrants chimiques, ça peut faire le même dégât qu'un conventionnel. Parce qu'un quelqu'un qui n'est pas labellisé bio, ça ne veut pas dire qu'il traite tous les jours.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, les traitements chimiques coûtent de plus en plus cher. Et les producteurs, en tout cas ceux qui ne sont pas, ceux qui ont travaillé, qui ne sont pas labellisés bio, on utilise quasiment pas.
Oui.
Il y a beaucoup de cultures qui ne nécessitent pas. En fait, c'est assez logique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'intervention chimique, c'est la conséquence d'une course vers la productivité. C'est-à-dire que plus vous densifiez vos cultures, plus vous avez de risques de maladies. Et donc, plus vous avez besoin d'intervenir. Les gens avec qui on... Et donc, densifier les cultures, ça veut dire bien souvent faire de la monoculture sur des grandes surfaces, obtenir des rendements très importants. Et donc, à ce moment-là, vous avez des risques de maladies. C'est exactement si dans, comme dans cette pièce, au lieu d'être deux, on était 40, on tomberait tous malades. Bah, c'est exactement la même chose pour les plantes et pour les animaux. Et c'est pour ça que dans les élevages intensifs, vous avez de la nécessité de, d'intervenir, sinon les animaux, ils crèvent, en fait.
Oui, pour ça avec les antibiotiques.
Avec les antibiotiques, et du coup, à la fin, ils viennent même résistants à ces antibiotiques, etc., etc. Donc, les gens qu'on rencontre, en fait, si vous voulez, dès le départ, quand je parlais de valoriser le terroir et valoriser le savoir-faire, on va s'adresser, d'ailleurs, dans nos recherches, on utilise pas mal de bouquins qui référencent les variétés locales et historiques un petit peu. Et donc, ces gens-là, en fait, ils sont pas du tout dans l'état d'esprit que je viens de vous décrire. C'est-à-dire, ce sont des passionnés qui souvent se sont transmis de génération en génération un certain savoir-faire pour cultiver une certaine variété. Et cette variété-là, le plus souvent, comme je vous l'ai dit, elle est acclimatée à son environnement et donc elle nécessite pas d'intervention parce qu'elle ne tombe, elle tombe moins malade. Donc ça, c'est déjà un postulat de départ. Comment on s'aperçoit effectivement comment on garantit en fait la non-intervention? Bah c'est déjà, alors c'est vrai que comme je vous l'ai dit, même si c'est pas ce qu'on met en avant, on priorise le bio dans notre sourcing en fruits et légumes, comme je vous disais, c'est pour ça qu'on a plus de 80%, mais on veut pas en faire un argument de vente. C'est différent. Et après les autres, j'ai plein d'exemples à vous donner. On travaille avec des maraîchers qui, pour des raisons assez évidentes aujourd'hui, n'arrivent plus à trouver de main d'œuvre, et qu'à un moment donné, ils ont pas assez de main pour arracher l'herbe. Donc certains effectivement autorisent des interventions, et en fait, c'est des interventions qui sont complètement c'est épisodique, et effectivement selon nous et selon même des analyses, puisque c'est des choses qui ne se retrouvent pas dans les produits. Donc il y a cette complexité auquel on fait face dès le départ. Quand on rencontre un maraîcher, je m'en souviens, en Île-de-France, qui s'appelle Philippe Nantois, qui fait peut-être les meilleures fraises qu'on ait goûtées jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui est sur le plateau d'Orgeval, donc qui a depuis des générations sur ce plateau-là, on a cultivé des fruits rouges, des petits fruits rouges qui étaient à l'époque même envoyés à la cour du roi avant les chemins de fer, c'est sûr, parce que c'est intervenu après, mais si vous voulez, il y avait toute une agriculture en Île-de-France qui a disparu avec les chemins de fer, et on retrouve un peu à chaque fois le dernier des Mohicans partout en France, et lui en fait travaille cette fraise-là. Faut savoir que c'est sur des plateaux en pente où le sol draine extrêmement bien l'eau, donc ça veut dire qu'on a une texture qui est absolument pas flotteuse. Lui travaille tout en plein champ. C'est pas en pleine terre, en plein champ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serre. Aujourd'hui, plus de 90% de la culture de fraises, c'est du hors-sol. Alors oui, effectivement, il n'est pas en bio, mais il bine à la main, donc il désherbe, c'est aérer la terre pour l'aérer, mais aussi pour éviter que l'herbe pousse. Et oui, il n'est pas en bio parce qu'il va peut-être s'autoriser une intervention et qu'il est seul avec sa femme. Par contre, le produit qui sort, c'est un des meilleurs produits qu'on ait. La variété est incroyable, le savoir-faire exceptionnel. Donc, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on doit arrêter de travailler avec lui? Nous, on pense que non. Et on pense pas que l'impact de son travail soit véritablement important.
Mais c'est intéressant parce que vous êtes de fait un peu à contre-courant sur ce sujet-là, parce que on a eu tellement de scandales alimentaires que les labels ont eu l'intérêt, en tout cas, de rapporter une certaine confiance dans le produit que l'on consomme. Et vous avez réussi à créer cette marque qui se base sur la confiance. Vous faites confiance à vos producteurs, vous faites confiance aussi à vos clients pour comprendre que c'est pas forcément le bio votre credo, mais que même vos produits non bio ont en réalité un impact négligeable sur l'environnement.
Et je dirais même positif.
Ok. Comment tu l'as construit cette confiance? Est-ce que du coup pour vous le bon produit, la preuve du bon produit, ça a quand même été avant tout le goût?
Je l'ai dit tout à l'heure, ça suffit pas. Enfin, oui, ça a été le goût, effectivement. Quand on se rend sur place, quand on voit la taille d'une ferme, quand on rencontre les gens, qu'on goûte, on se dit, mais là, il y a quelque chose. Il y a une recette pour ça. Et oui, la recette, c'est le terroir et tout ce que ça signifie. Le terroir, c'est le croisement entre la terre et le savoir-faire. Donc ça on a tout dit une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'il faut une bonne terre, mais il faut l'intervention humaine. Et l'intervention humaine, ce qui est difficile aujourd'hui, et c'est les grands sujets de notre époque, c'est quel est le dosage, quel est le bon dosage de l'intervention humaine. Et cette confiance, je sais pas comment vous dire, on l'a créée parce que avec ça, on était sincère et que on n'a jamais menti aux gens, quoi. Je pourrais vous dire là que tout est bio, que tout est parfait, etc. C'est faux en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut cette logique de bio pas bio, c'est aussi pour rassurer les gens en fait.
Ouais.
Mais il y a pas de quoi être effrayé non plus par il faut comment dirais-je prendre les sujets par le bon bout, c'est-à-dire que quand on rencontre, comme je vous dis, il y a des centaines de gens qui travaillent extrêmement bien et qui veulent même pas entendre parler de bio. Et dans l'élevage, c'est le cas. Dans l'élevage, aujourd'hui, le bio a un cahier des charges qui est moins poussé que toutes les viandes qu'on achète. Comme je vous disais, les temps d'élevage sont réduits. En bio, une volaille, c'est 90 jours. Chez nous, il n'y a pas une volaille en dessous de 120 jours. Le cochon, c'est 6 mois. Chez nous, c'est minimum 9 mois. Et les races rustiques, c'est jusqu'à 15 mois d'élevage. Je veux dire, donc le bio ne suffit pas. Enfin, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une première étape et c'est beaucoup mieux que tout le reste. Mais quand on s'intéresse, quand on va au fond du sujet, on se rend compte que c'est pas le Graal.
Alors j'ai deux questions qui me viennent de ce que tu vas dire, que tu viens de dire. La première, c'est comment on fait quand on n'est pas parisien, quand on n'a pas accès à tes produits. Qu'est-ce que du coup le bon produit et comment on y a accès en dehors de Terroir d'Avenir, première question. Et deuxième question, de fait, les produits d'ailleurs, qu'ils soient bio ou pas bio, mais qu'ils soient bio ou Terroir d'Avenir, on va dire, coûtent un certain prix. Comment on rend ce produit accessible?
Alors, c'est une excellente question. La première, je dirais que, j'étais assez surpris, mais c'est vrai que quand on sort de Paris, c'est plus difficile d'avoir accès à ces produits. Parce que on critique beaucoup l'esprit un peu bobo, etc. Mais mine de rien, il y a quand même une catégorie de la population qui donne un élan à cette transition. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont aujourd'hui à Paris, ils sont demandeurs de ce type de produit-là. Et on le voit aujourd'hui, à tous les coins de rue, il y a une nouvelle épicerie, un nouveau magasin qui ouvre, parce qu'il y a cette demande-là. Et c'est vrai qu'elle... Cette demande, elle vient parce qu'il y a eu une prise de conscience de la part des consommateurs. Quand on sort de Paris, si vous voulez, c'est moi-même, quand on sillonnait un peu les régions, on comprenait pas que les mecs, ils marchent pas, quoi. Ils arrivent pas à vendre, quoi. Alors que...
C'est moins le cas aujourd'hui, peut-être.
C'est moins le cas, mais au début, c'était affolant. C'est-à-dire que sur les marchés, ils vendent pas. Les gens, ils veulent des beaux légumes. Les gens, ils vont en grande surface. Alors qu'ils ont tout à côté de chez eux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas de réponse absolue à cette question. Comment on trouve quand on va sur les marchés, on rencontre des maraîchers, on discute avec eux et on voit vite. Et on le voit vite. Ça, c'est ce que je pense, que il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'humain en fait. Et vous parlez comment on a réussi à créer cette confiance et comment finalement cette confiance sans label. Bah parce qu'en fait on est, je pense que les choses se sentent et qu'on se moque pas des gens, on leur dit la vérité et c'est le contact humain qui fait après la différence. Et surtout on prend des risques parce que et c'est la base de la confiance, il faut prendre des risques. Parce
je finis juste, on prend
des risques parce qu'on donne les noms des producteurs au départ, il y a personne qui fait ça, donc les gens on leur dit mais va voir sur place, on organise des rencontres entre les chefs, les clients des magasins et les producteurs. On crée des rencontres entre les différents producteurs. Et en fait, si vous voulez, il y a, on n'a rien à cacher. Donc, les gens peuvent vérifier par eux-mêmes. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on est là encore aujourd'hui, quoi.
Et est-ce que cette non-accessibilité, enfin, cette plus difficile accessibilité, on va dire, en région, elle est liée au fait que cette agriculture aujourd'hui, elle est encore trop exceptionnelle, elle est encore trop une agriculture de niche?
Ouais.
Ou est-ce que, franchement, depuis les 13 ans que vous existez, vous avez vu évoluer et qu'il y a quand même de quoi être positif sur le fait que
bien
ça
sûr.
Devient...
Bien sûr.
Ça se développe, quoi, en tout cas.
Alors, sur Paris, c'est ce que je disais, c'est indéniable, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, le paysage urbain est en train de changer et que... il y a de plus en plus de magasins et c'est tant mieux, quoi. En dehors de Paris, je peux pas vraiment vous répondre parce que je connais pas suffisamment.
Mais sur les producteurs, est-ce que tu as de plus en plus de producteurs qui se mettent à...
Alors ça, c'est clair. Il y a de plus en plus de producteurs qui s'installent, qui arrêtent aussi parce que c'est difficile. Mais dans l'ensemble, il y a un élan très clairement vers ça, et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça, on revient un petit peu à la... à cette volonté de changer les choses et on peut le faire. On peut le faire, c'est la preuve en fait aujourd'hui que vous savez, on a voulu créer une entreprise plutôt qu'une association parce que pour nous, il n'y a que le commerce qui fait changer les choses. Il n'y a que le vrai pouvoir sont les consommateurs qui l'ont. Et ils ont le pouvoir effectivement de soutenir un modèle plutôt qu'un autre. Donc en fait, il suffit de les convaincre. Et pour les convaincre, il faut être honnête, il faut créer cette relation de confiance avec eux. Mais on voit bien que la dynamique, elle est lancée aujourd'hui. Il faut continuer. Alors après, c'est microscopique. Hein. Je veux dire, on parle de. Enfin, nous, on est dans 4 rues, donc on peut pas dire qu'on a révolutionné le monde. Mais peut-être qu'on a participé, peut-être qu'on a initié quelque chose. On a donné un élan et c'est génial.
Alors, bon, tu as dit quelque chose qui me questionne et on y reviendra après sur est-ce que le consommateur a le pouvoir. Avant d'adresser cette question, je voudrais que tu répondes à cette question de l'accessibilité. Oui. Comment on rend tes produits et le bon produit accessible à tous?
Ça aussi, c'est les questions qu'on se pose éternellement. Et je vous avoue qu'avec Sam, nous, on n'avait pas les moyens d'aller dans les restaurants. On n'est pas du tout à plaindre, mais on n'a jamais roulé sur l'or. Donc, je veux dire, cette question d'accessibilité, on a toujours voulu vendre un produit à un prix le plus accessible possible. Et c'est pas toujours facile. Quand on respecte toutes les règles, c'est pas toujours facile. Mais c'est possible. C'est possible. Et aujourd'hui, c'est possible sur pas mal de produits. Sur d'autres, c'est un peu plus compliqué. Sur les fruits et légumes, sur la boulangerie, sur le fromage, c'est tout à fait possible. Sur certaines viandes aussi, c'est tout à fait possible. Et chez nous, on vend la baguette à 1 €, le croissant à 1 €, les carottes à 2,50, le steak haché à 3 €, le jambon à jambon de Paris à 26 € le kilo. Ça va peut-être pas vous parler, mais c'est pour la qualité. Et même un jambon lambda, c'est largement en dessous de ce qu'on trouve. Après, il y a d'autres produits. Oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais c'est là où, si vous voulez, le rôle du commerçant est malgré tout limité. Parce que derrière, après, c'est au-dessus qu'il faut. C'est au-dessus que ça doit bouger. Au-dessus, je parle politiquement. Parce que la question, c'est beaucoup une question fiscale, selon nous. C'est compliqué de faire comprendre que, justement, Philippe Nantois, dont je parlais tout à l'heure, qui est à 20 minutes de Paris, ses fraises seront toujours peut-être jusqu'à 4-5 fois plus chères que des fraises qui viennent du sud de l'Espagne. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que, alors qu'ils n'utilisent pas de produits chimiques, ce qui n'est pas le cas dans le sud de l'Espagne, et qu'il n'y a pas de transport. Pourquoi ? Parce que, en fait, la main-d'œuvre n'est pas la même, c'est pas le même coût. Et ça, c'est une question qui dépasse le commerçant aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on était assez révoltés quand les gens nous disaient, mais attendez, ouais, c'est cher, etc. Mais attendez, non, c'est pas cher. On gagne moins d'argent à vendre ces produits-là que vendre les autres, en fait. C'est le prix que ça coûte.
Il y a une vraie réflexion auprès du grand public sur quel est le prix de l'alimentation.
Bien sûr, mais après, encore une fois, moi, j'aime pas trop rentrer dans le débat de ouais, mais si t'achètes pas ces produits-là, tu flingues la planète, etc. C'est compliqué parce qu'il y a quand même des gens aussi qui n'ont pas les moyens. Je le comprends. Enfin, je veux dire, c'est normal, quoi. Je veux dire, il y a des produits qu'on peut pas payer et on peut pas le reprocher aux gens. Malgré tout, il y a deux leviers pour moi. Il y a quand même le sujet effectivement du budget d'alimentation qui était en décroissance pendant les 30 dernières années et qui là est en train de remonter. Et après, il y a un facteur clé qui est la cuisine. La cuisine, c'est quand on n'a pas d'argent, en fait, on doit cuisiner, quoi. Parce que c'est ça qui fait que on peut se nourrir correctement. Et on n'est pas obligé d'acheter le Nec plus ultra. Mais déjà, si on cuisine et qu'on va savoir acheter des produits. Parce qu'en vrai, c'est la transformation qui fait que on est capable de dire si le produit est frais, si le produit est bon. Et on sait ce qu'on mange derrière.
Bon, du coup, tu as répondu quand même déjà à ma question où je voulais te challenger sur le fait que les consommateurs n'étaient pas l'unique clé. En effet, moi, j'en suis personnellement convaincue. Sur l'accessibilité, reste qu'aujourd'hui, tu es quand même plus cher que le supermarché, on va dire, de base. Ouais. Comment on fait pour les concurrencer, eux ? Comment on fait pour que ton modèle devienne le modèle ?
Il faut... il faut savoir que quand on va au supermarché, on paye deux fois, on paye deux fois les impôts. Une première fois pour soutenir un modèle agricole intensif et une deuxième fois à la caisse. Il faut peut-être changer ça. Chez nous, on paye une fois, quoi. Et ça, c'est sûr que les gens avec qui on travaille ne touchent pas les mêmes subventions que, que ceux qui sont dans un modèle différent. Pour autant, il y a aussi l'image qu'on peut avoir là-dessus. Et je pense que les gens, c'est normal, puisque en fait, on, culturellement, on a été habitué à mettre de moins en moins dans, dans l'alimentation. Mais les gens qui viennent chez nous, parce qu'on a beaucoup de nouveaux clients de plus en plus, quand ils viennent, eh ben, ils ont des avis a priori, puis après ils se disent, bah non, en fait.
C'est pas si cher. Non,
en fait, c'est le prix, quoi. C'est le prix, et c'est oui, il y a des sous sur lesquels c'est pas si cher. Et en fait, il y a plein de choses à changer. On n'est pas obligé de. C'est vrai qu'on a été peut-être mal habitué, mais c'est de notre faute à manger tous les jours de la viande, à manger tous les jours du poisson, à manger tous les jours de plein de choses, en fait, dont on n'a pas forcément besoin déjà. Et donc aujourd'hui, il y a tout un travail pédagogique à changer. Et ça va, en fait, si vous voulez, je prends l'exemple de la viande. Nous, on achète toutes nos viandes à l'équilibre, c'est-à-dire en carcasse entière. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen d'aider véritablement le paysan. Parce que les parties nobles, celles que tout le monde s'arrache, ne suffisent pas à payer correctement le producteur. Donc nous, il y a tout un travail de valorisation des bas morceaux qui est essentiel. Et c'est aussi, et selon nous, en fait, déjà, c'est un moyen de vendre de la viande un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de manger que des côtes de bœuf ou des entrecôtes. On peut, il y a plein de morceaux dans une bête qui fait, je sais pas, 400-500 kilos, de se régaler, d'être du coup plus accessible puisqu'on équilibre les coûts matières. Et c'est aussi une autre approche de la consommation. C'est le fait de savoir que tout n'est pas disponible tout le temps. C'est ça aussi qu'on a réussi, je pense, c'est le pari qu'on a réussi à créer. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ce modèle d'agriculture paysanne qui est vraiment pour nous cette troisième voie entre le bio et l'intensif, qui est pour nous ce modèle qu'on défend, qui répond aux défis de notre génération. Pour qu'il marche, en fait, il faut qu'on s'adapte à l'offre et pas à la demande. Et ça, en fait, on l'a vite compris au départ que les produits n'allaient pas être disponibles tout le temps, qu'ils n'allaient pas avoir le même goût toute l'année et qu'il allait falloir qu'on dise non aux clients. Et ça, c'est un truc, en fait, les gens, ils n'étaient pas habitués, ils nous disaient, attends, mais... Et le fait de dire non, c'est ça qui crée la confiance. Parce que quand quelqu'un vous dit non, il ne défend pas ses intérêts financiers dans le commerce. Mais du coup, c'est ça qui fait que les gens nous ont fait confiance, parce que bah voilà, les chefs, on leur dit, bah non, j'ai plus, désolé, j'ai que 10 agneaux, j'en ai pas 11. Ah bah non, mais dépanne-moi, je suis dans la merde. Bah non, en fait, non, ça va pas être possible. Puis ils raccrochent, et puis après ils rappellent parce qu'ils savent qu'on se moque pas d'eux. Et c'est pareil en magasin. Les gens aujourd'hui dans les magasins ne viennent pas avec une liste de courses. Ils viennent, ils s'adaptent. Et c'est la seule façon de faire changer les choses, c'est ça. C'est de s'adapter à ce qu'il y a.
Ouais, d'oublier la liste de courses. Si ça intéresse nos auditeurs et auditrices sur le prix de l'alimentation, on a enregistré un podcast avec Claude Gruffat sur l'alimentation doit-elle être chère, et qui développe justement cette question des subventions à l'alimentation qui aujourd'hui ne vont pas vers les petits producteurs et l'agriculture paysanne, mais vers les gros, puisque les subventions sont à l'hectare. Je voudrais te poser une question par rapport justement aux personnes qui n'ont pas accès à Terroir d'Avenir. Est-ce qu'on peut trouver quand même des bons produits dans un supermarché ? Et si oui, d'après toi, c'est quoi, pour ceux qui n'arrivent pas à se passer du supermarché, comment on choisit ce bon produit ?
C'est dur. Comme question. c'est difficile parce que... Alors, très objectivement, et c'est pas du tout... ça va être pas très apprécié comme réponse, mais je vais jamais au supermarché sauf pour acheter certaines choses indispensables. On a cette chance, voilà, d'avoir créé un village en autosuffisance avec nos magasins. C'est difficile quand même. Je peux pas vous dire. Je pense malgré tout qu'il y a quand même des filières, des bonnes filières qu'on retrouve en supermarché. C'est clair et net. On peut pas dire que tout est nul, tout est merdique, pourri, etc. Ouais. Tout est pourri, c'est pas vrai. Mais par contre, elles seront peut-être pas valorisées comme dans des circuits courts qu'on met en avant. parce que...
Tu veux dire que la rémunération du
la
producteur...
La rémunération sera peut-être pas la même. L'impact écologique sera peut-être pas le même non plus. Donc oui, je pense que bien sûr, heureusement en fait, je veux dire, nous on nourrit... je sais même pas si on aurait 1% des habitants du 11e, quoi. Donc, du 2e et de Montreuil. Donc, bien sûr, il y a des marchés, il y a des supermarchés, il y a des biocopes. Enfin, voilà, on arrive à trouver. Après, je suis pas capable de vous dire, je sais pas comment ils sélectionnent tous leurs produits, mais on voit quand même que les grandes surfaces ont fait des efforts importants. Mmh.
Peut-être regarder.
Après, il y a beaucoup de marketing. L'exemple des tomates, c'est un exemple, super exemple. Aujourd'hui, il y a 11 ans, personne ne faisait des tomates anciennes, dites anciennes. Pourquoi anciennes? Parce que c'est des semences paysannes. Et vous savez, c'est des semences qui sont moins productives, mais qui par contre, donnent des fruits et des légumes qui sont vraiment, véritablement savoureux. Et on a créé des semences, enfin ça existait déjà avant, mais on a créé des tomates anciennes hybrides F1, c'est-à-dire des modèles qui sont sans trop de goût, quoi. Par contre, qui sont très productifs. Sur les pieds de tomates, on a 3, 4, 5 fois plus de tomates, mais ça n'a pas le goût et ça a les bonnes couleurs. Et donc, c'est vendu au prix des autres tomates, alors que ça coûte beaucoup moins cher. Donc, si vous voulez, voilà, faut être un peu avisé maintenant. Maintenant, je pense qu'il faut rentrer dans le détail. Je pense que, vous savez, localement, je pense que quand on sort de Paris, il y a plein de supermarchés qui achètent en direct à des producteurs et on arrive à avoir des quand c'est pas des centrales, en fait, quand c'est des indépendants, on peut trouver des super trucs. Mais, je suis à la campagne, je vais au marché, quoi. Je vais pas au supermarché.
Et est-ce que tu crois que quand même les labels dans ce cas-là aident ou alors les applications?
Bien sûr. Les applications, j'en connais aucune, mais les labels, oui. Oui, bien sûr. Mm. Ben, c'est normal. Mais c'est fait pour ça.
Je pensais notamment à Yuka parce que il y a eu un moment où c'était la folie Yuka chez les personnes, notamment qui cuisinaient pas forcément et qui achetaient des choses transformées. Est-ce que le bon produit, c'est aussi un produit sain?
Oui. Mais ça va avec le modèle agricole. Mm. Puisque un produit qui est sain, c'est un produit qui est bon pour notre corps, et un produit qui est bon pour notre corps, c'est un produit qui a pas été bourré d'antibiotiques ou traité à plusieurs reprises de pesticides. Mmh. Alors c'est aussi, alors après il y a la question nutritionnelle qui est d'ailleurs une question sur laquelle je pense qui est intrinsèque à la qualité du produit, mais je pense qu'elle est pas assez poussée. Je trouve que et c'est des choses qu'on devrait peut-être savoir, enfin, sur lesquelles on devrait travailler, même chez nous, c'est l'aspect nutritionnel, je pense, qui est très important de voir la qualité intrinsèque des aliments. Et je pense que c'est assez passionnant. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment au Japon, une étude qui a été assez marquante sur les épinards qui étaient produits avant-guerre et les épinards qui étaient produits aujourd'hui. La contenance en fer était 10 fois moins. C'est 10 fois inférieur à ce qui était produit avant. Ça en dit long, du coup, sur...
On a perdu 80% de nos nutriments, ouais.
Voilà, ça en dit long sur qu'est-ce que c'est qu'un bon modèle agricole. Et c'est pour ça que, selon nous, le modèle qu'on défend, c'est l'avenir. Puisque il y a que ça, ça coche toutes les cases.
Ouais, les semences paysannes, normalement, sont censées être plus nutritives.
Oui, non, mais c'est surtout la terre. Mm. La terre qui est vivante. Ouais. La terre qui est pas morte, qui a pas été... labourée jusqu'à être asséchée, qui a pas été traitée jusqu'à être complètement morte, en fait. La terre qui est vivante et qui fait que les légumes contiennent suffisamment de nutriments. Mais après, comment rendre accessible ces produits? C'est clair qu'à un moment donné, les commerçants, ils y seront limités. Il faut une intervention politique.
Et donc, dans l'intervention politique, quelle est la mesure pour toi primordiale aujourd'hui à mettre en avant?
Il y en a quand même plusieurs. Je pense que la question fiscale est très importante, mais je pense que c'est une question qui est trop complexe et que évidemment je maîtrise pas. Mais c'est pas normal qu'on achète des produits qui polluent, qui coûtent plus cher que des produits qui ne polluent pas, simplement parce qu'il y a deux. Déjà, même dans le même pays, c'est pas logique qu'on achète des produits qui coûtent 10 fois moins cher, qui viennent de l'autre bout du monde, alors que les produits qui sont à 20 minutes de chez nous coûtent beaucoup plus cher. Je pense qu'il y a vraiment la nécessité d'avoir d'harmoniser, je pense, la fiscalité.
Une taxe carbone, peut-être.
Certainement, il y a, je sais pas si les taxes répondent à toutes les problématiques, mais je pense que la question d'harmoniser la fiscalité, c'est quand même, au moins dans le domaine agricole, ça serait quand même intéressant. Ça permettrait d'avoir des coûts de production qui sont équivalents et de pas être en concurrence déloyale.
Mais il n'y a pas que la fiscalité, il y a le fait que la main-d'œuvre, tout simplement, coûte plus cher en France qu'ailleurs.
Oui, mais c'est la fiscalité, la main-d'œuvre.
Bah, pas seulement, quand même, il y a aussi le prix minimum. Le salaire?
Oui, certes, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, vous n'avez pas les mêmes charges sur les salaires en France que vous avez dans les autres pays. Et donc, ça fausse les règles du jeu. Sachant qu'aujourd'hui, un produit agricole, ce qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre. C'est pas la semence, hein. La semence, ça coûte que dalle, hein. C'est le temps passé à récolter, à couper. Et aujourd'hui, les producteurs sont face à cette contrainte encore plus qu'avant. Parce que si vous voulez être compétitif, il faut qu'ils soient non seulement productifs, et donc, par conséquent, ils doivent, agir, enfin, être productif, ça veut dire qu'il faut faire le plus possible en moins de temps possible. Donc, il faut être, faut parfois se mécaniser, il faut investir, ou alors faut être très rapide, quoi. Cet après-midi, Clément, qui travaille, qui est un des plus anciens de la maison, qui a travaillé à peu près dans tous les services d'entreprise et qui aujourd'hui travaille à la com, était chez Serge Barberon, qui est notre producteur de cresson en Île-de-France. Mais il faut voir l'agilité de ce monsieur. Ça fait, je pense qu'il a bientôt, là, je ne sais plus quel âge il a, mais j'ai rencontré il y a 13 ans, je pense la 40-50, il doit avoir plus de 60 ans. Tout est fait à la main. Et le type, c'est une machine. Et s'il n'est pas rapide, son cresson, il vaut deux fois le prix. Donc, il ne peut plus le vendre. Donc, si vous voulez, il y a... Et son cresson coûtera toujours plus cher qu'un cresson, dit entre guillemets, industriel. Donc, il y a cette question-là. Il y a effectivement la question des subventions. Je pense que c'est une vraie question. Vous l'avez dit tout à l'heure, une question qui est des subventions qui sont données à l'hectare. Je ne sais pas si c'est... Je sais pas si c'est la bonne réponse. Et puis, il y a l'impact écologique. À un moment donné, il va falloir qu'on taxe tout ça, quoi. Parce que je prends l'exemple de la pêche. Vous avez des chalutiers qui vont débarquer avec plusieurs tonnes de poissons, de dorade grise. Et puis, vous avez un. Et j'ai rien contre les. Attention, hein, j'ai rien contre les chalutiers parce qu'on travaille aussi avec des petits chaluts. Mais quand c'est côtier, quand c'est maîtrisé, quand les traits font pas plus de 30 minutes, quand les espèces sont ciblées, quand il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de souci. Mais vous avez aussi des grandes campagnes de pêche avec des bateaux qui partent parfois de jusqu'à deux semaines, qui pêchent une tonne de poissons par jour, qui débarquent avec 15 tonnes de poissons et qui font forcément, quand vous avez le petit ligneur qui a pêché 100 kilos de poissons, comment vous voulez lutter en fait? Et à un moment donné, faut savoir quel modèle on soutient. Alors effectivement, la grande question, c'est ouais, mais on va pas nourrir la planète avec ce modèle agricole. Bah, je sais pas en fait. Je pense que c'est une vraie question.
Si on mange moins de poissons et moins de viande, si.
Si on mange moins de poissons et moins de viande, mais même, en fait, quand vous savez que, vous voyez, on dit que, enfin, c'est des questions, j'ai pas des réponses absolues parce que ce serait prétentieux de ma part, voilà, de vous dire c'est comme ça. Mais on est quand même en droit de se poser ces questions-là. Est-ce que l'élevage de poissons, c'est une solution d'avenir quand on sait qu'il faut 5 kilos de poissons sauvages pour faire 1 kilo de poissons d'élevage? Est-ce que, à un moment donné, j'ai pas de réponse comme ça, mais je pense que c'est une vraie question.
On entend quand même, on sous-entend quand même, ouais. La réponse.
Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, quel modèle on veut? Et puis de dire aussi, c'est toujours les gens, ce qu'ils vous disent, ouais, mais non, mais avec la bio, avec l'agriculture vivrière, tu vas pas pouvoir nourrir les gens, etc. Mais je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on était dans un modèle d'agriculture vivrière avec beaucoup de producteurs. On est passé à un modèle où aujourd'hui, il fallait produire de plus en plus, avoir des tailles d'exploitation de plus en plus grosses. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce modèle-là, il répond pas aux attentes des consommateurs et à la nécessité de maintenir un équilibre alimentaire, climatique et sanitaire. Donc, il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions. On a rencontré il y a pas longtemps un maraîcher avec qui on a commencé à travailler, qui est à Chambord, potager de Chambord, qui s'est formé, d'ailleurs c'est marrant, c'est un ancien restaurateur, qui s'est formé au Canada avec Jean-Martin Fortier, je sais pas si ça vous parle, qui lui en fait a étudié un modèle qui vient d'ailleurs d'Île-de-France, un modèle de production qu'on peut appeler aujourd'hui de bio-intensif, qui consiste à optimiser le plus possible les petites surfaces. Et on se rend compte que les méthodes utilisées par cet homme et donc par du coup les gens qui travaillent de cette manière-là sont assez incroyables. C'est-à-dire qu'on a des rendements qui sont à peu près équivalents à l'agriculture conventionnelle, sans intervention chimique, sans labourage, avec un système de récupération d'eau. Enfin, et c'est un modèle qui est extrêmement bien conçu et poussé. C'est-à-dire que financièrement, c'est un modèle qui est rentable, qui permet d'avoir des employés qui sont tous déclarés, qui sont tous correctement payés. C'est un modèle qui permet aux producteurs de travailler 35 heures, ce qui est du jamais vu en agriculture. Et surtout, c'est un modèle qui tient sur 5 hectares. Mmh. C'est pas une grande surface. Et on se rend compte que ce modèle-là, en fait, il commence à se dupliquer, il commence à fonctionner. Il peut très bien s'appliquer partout dans le monde. Et aucun intrant chimique, une juste rémunération des produits qui sont accessibles parce qu'il y a une très bonne productivité. Donc, je pense qu'il faut, oui, il y a des choses à faire.
Il y a des choses à creuser. Je voudrais qu'on fasse quand même ce travail de la checklist pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu perdus en disant « Ok, moi j'ai envie d'écouter ce podcast et de comprendre qu'est-ce qu'un bon produit ». Même si c'est difficile et tu nous as parlé de ces trois piliers, est-ce qu'on peut peut-être commencer par la semence?
Oui.
Semence paysanne?
Semence population ou semence paysanne, c'est le nec plus ultra. Après, c'est des semences hybrides mais qui sont cultivées de la meilleure des manières.
Ok. Donc, semence paysanne, si
là,
on peut.
Là, on parle du végétal, du coup. Hein.
Oui, du végétal, pardon, excuse-moi. C'est vrai. J'ai tendance à tout de suite penser au végétal. Sur l'animal, est-ce qu'il y a quelque chose de comparable sur la naissance des animaux? Sur les races rustiques, peut-être.
Alors, les races rustiques, bien évidemment, parce qu'elles sont, comme je l'ai dit, il y a assez peu d'interventions sur ces races-là, parce qu'elles sont bien ancrées dans le territoire, donc elles sont habituées à l'alimentation locale, elles sont habituées au climat local, donc elles tombent moins malades, donc il y a moins d'interventions chimiques, etc., etc.
Et donc,
c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est une question auquel voilà, on n'a pas encore répondu, mais est-ce que la race est plus importante que le mode d'élevage? Il y a 13 ans, je vous aurais dit oui. Aujourd'hui, je sais pas. D'accord. Je pense que le mode d'élevage est très important, et comme je disais tout à l'heure, il sera peut-être pas possible de faire que des races rustiques. Le mode d'élevage est fondamental. Et le mode d'élevage, c'est du plein air. C'est une alimentation qui est certifiée non OGM. Et ça, c'est très important. Parce qu'il faut savoir que ça fait plus de 30 ans qu'on donne des OGM aux animaux. On n'a pas le droit de les manger nous-mêmes, on peut les donner aux animaux. Mmh. Et ça, il n'y a aucun, je dis bien, à part le bio, pour le coup, ça vous avez raison, il n'y a aucun cahier des charges qui indique ça. Hein. Mmh. Personne ne le sait. Hein. Donc le mode d'élevage est très important. Le mode d'élevage pour les animaux, c'est le plein air.
Poisson sauvage.
Poisson sauvage, mais le poisson, pour le coup, ça, c'est une denrée qui coûte relativement cher. Et je pense que il y a un travail qu'on a initié. Il y a également Poiscaille qui a initié un super travail sur la valorisation des espèces qui sont pas forcément très connues. Nous, je me souviens quand on a démarré, les restaurants, ils voulaient tous du bar, du bar de la langoustine, du Saint-Pierre. Et nous, on avait du maquereau, du chinchard, du merlu de ligne. Et sur l'étal, les gens, c'est pareil, ils rentraient dans la poissonnerie, ils voulaient du saumon, du cabillaud, et on n'avait pas ces produits-là. Donc en fait, il y a un vrai travail pédagogique, et c'est ça peut-être qui sauvera effectivement la pêche artisanale. C'est qu'il faut valoriser tous les produits.
Une fois qu'on a identifié ça, et donc probablement aussi les espèces, éviter les espèces menacées dans les poissons.
Tout à fait.
Je pense beaucoup à l'anguille, parce que c'est l'espèce à la mode qui est ultra menacée aujourd'hui.
Mais ça dépend du mode de pêche. Parce que je vais vous donner un exemple sur le thon. Quand on a démarré, le thon, en fait, était clairement, il y a 13 ans, c'était en voie de disparition. Et nous, en fait, on avait des grands restaurants, les palaces, qui nous disaient, non, moi, j'achète pas de thon. Nous, on était allés à Saint-Jean-de-Luz sur le port, et on avait rencontré des pêcheurs qui pêchaient le thon de façon complètement artisanale, c'est-à-dire à la canne. Mmh. Ils mettaient sur le bateau, ils partaient deux jours. Le premier jour, ils allaient pêcher le pinchot, qui est le lapin. Le deuxième jour, ils allaient pêcher le thon. Et ils revenaient, ils avaient des quotas très limités. Voilà, des fois certains 500 kilos jusqu'à 2, 3, 4 tonnes. Et c'est une pêche qui est sans rejet. C'est-à-dire que c'est une pêche qui n'a pas d'impact sur l'environnement. D'autant qu'ils ne pêchent que quand le thon vient dans le golfe de Gascogne.
Oui.
Donc en fait, vous ne pouvez pas mettre au même niveau. des gens qui prélèvent correctement de la ressource et qui n'a aucun rejet avec au même niveau qu'avec les pélagiques qui en un coup de filet vous pêchent 600 tonnes de poissons.
Mais ça vaut pour les espèces, d'après moi, hein, qui sont quand même en bonne situation en termes de nombre de population. Et pour l'anguille, on est arrivé à un stade critique où, selon les scientifiques, il ne faut vraiment plus du tout la pêcher.
Ce que je voulais dire, parce que je ne voulais pas finir, c'est que le thon qui était clairement menacé d'extinction, aujourd'hui, il revient. Ouais. Il revient parce que politiquement, on a fait les choses comme il fallait.
On a fixé des quotas.
C'est-à-dire qu'on a mis des quotas extrêmement drastiques. Après, ce qui était un petit peu injuste, c'est que les quotas, ils sont pas basés sur les engins de pêche, mais ils sont basés sur l'historique des pêches. Donc, c'est ceux qui pêchaient toujours le plus qui avaient le plus de quotas. Donc, forcément, c'est des gros bateaux qui pêchent le plus. Donc, c'est forcément eux qui avaient le plus de quotas. Mais je pense qu'il faut dire l'intervention politique, elle permet de résoudre beaucoup de problèmes, quoi.
Ouais, elle montre en tout cas ici le succès. Donc ensuite, une fois que tu as fait ce choix-là, en effet, le choix d'une agriculture extensive pour l'élevage, d'une pêcherie la moins impactante possible, la ligne. Le chalut, il y a débat sur le sujet, mais en tout cas, d'avoir des pêcheries qui sont le moins impactantes.
Surtout dans la pêche, c'est la taille des bateaux qui est importante.
Ouais, ok.
Il faut que ça soit moins de 12 mètres pour avoir une pêche qui est
côtière.
Qui est côtière et qui a pas beaucoup de rejet. Et ça dépend des gens, en fait. C'est pour ça, c'est compliqué. Je veux dire, vous pouvez avoir des ligneurs qui travaillent pas bien, qui laissent leur palangre 2, 3, 4 jours et le poisson, ils prennent des dauphins, ils prennent n'importe quoi et du coup, les poissons, ils meurent. Et puis, vous pouvez avoir des petits chalutiers qui font un trait de 30 minutes et qui pêchent du poisson avec son rejet, en fait. C'est compliqué, en fait.
Alors, je trouve ça hyper intéressant de...
Mais je sais qu'après, ça aide pas forcément.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est important que ça amène de la complexité dans quelque chose qui n'est pas simple et que les gens comprennent la complexité. Mais si on fait quand même ce travail de dire, OK, je veux juste un tout petit peu simplifier mes courses là, je pense que quand même ça peut de favoriser la ligne, ça peut quand même un petit peu aider.
Bien sûr, oui, mais bien sûr, tout à fait. Mais après, la ligne, ça a aussi un certain prix, c'est ce que je veux dire.
Oui.
Et en fait, c'est un sujet qui mérite de l'intérêt. Si on veut, pour moi, c'est un sujet qui est pour nous. Je pense que c'est un sujet majeur, l'alimentation, ce qu'on mange, ce qu'on ingère et ce qu'on digère. En fait, ça doit être une vraie question. En fait, c'est pas ça peut pas être.
On est bien d'accord.
Donc en fait, il faut peut-être prendre le temps après, sans se creuser, sans se prendre la tête.
Mais poser les questions.
Voilà, c'est juste savoir, sans diaboliser quoi que ce soit. C'est pour ça, c'est pas une question de terroir d'avenir, grande surface ou quoi. Je pense qu'il y a plein de façons de bien manger, en fait, déjà en cuisinant et on s'intéresse aux choses et du coup on voit les différences entre les bons et entre guillemets les mauvais produits. Mais après le label il est là parce que voilà, vous l'avez dit, les gens à un moment donné ils n'allaient pas se poser 30 000 questions. Donc sur le poisson, oui, il faut je pense qu'il faut privilégier le poisson sauvage, de pêche côtière avec des engins de pêche les plus passifs possibles, donc la ligne bien évidemment, le petit casier,
oui, c'est ça.
Un petit filet, voilà, et c'est tout, quoi.
Oui, quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais c'est vrai que nos crustacés sont en général plutôt bien pêchés parce que le casier, ça reste quelque chose de très peu impactant.
Ah ben, il y a zéro rejet, en fait.
Et donc ensuite, plutôt une agriculture sans intrants, de manière générale. Quand je dis intrants, c'est aussi bien, en effet, les antibiotiques pour l'élevage, mais surtout les pesticides et les engrais aussi pour le végétal. Donc ça, en effet, soit passer par des épiciers dont on a confiance, soit, il me semble, par des labels qui assurent une crédibilité. Et là, déjà, on a quand même un produit un peu satisfaisant.
Bien sûr, tout à fait. Je vais finir par accusé de... Non, mais tout à fait, bien sûr.
Est-ce que tu as un livre, une lecture, un film à conseiller aux gens qui ont envie d'approfondir le sujet, qui, toi, t'a marqué?
Non.
Rien qui te vient à l'idée?
Non, je pense que c'est une passion, ce qu'on vit depuis 13 ans, 14 ans, et c'est une passion qu'on développe dans les relations humaines et les rencontres. Franchement, on est avec Sam, on est purement autodidacte et euh, j'ai, on a, Il y a plein de livres, plein de films que j'ai pas vus qui parlent du sujet en fait, mais le truc on le vit presque de l'intérieur tout le temps, et c'est pour ça que je vous donne pas des réponses binaires, et parce que en fait ce qui est beau en fait, c'est que c'est des sujets qui sont complexes, et il y a pas qu'une seule réponse en fait au défi d'aujourd'hui. C'est-à-dire que il faut pas tendre vers l'orthodoxie et quelque chose de radical qui condamnerait un modèle plutôt qu'un autre. Je pense que la diversité répondra aux défis de notre génération. C'est-à-dire qu'il faut il faut des petits, il faut aussi des plus gros pour répondre peut-être à une certaine demande, mais il faut que ces gros ils aient quand même il faut que leur impact soit limité. Il faut pas qu'ils puissent tout faire, sinon c'est compliqué. Donc il y a un ensemble de choses à mettre en avant. Je pense que voilà, le on a comme je vous disais tout à l'heure, le modèle après-guerre, c'était fin de l'agriculture vivrière, on fait des grosses fermes, les producteurs grossissent de plus en plus, on priorise que ça, mais aujourd'hui en fait ça a plus de sens, en fait ça a plus de sens et ça répond plus aux défis. Donc il faudrait pas non plus que demain on fasse dans le sens inverse, qu'on parte à l'extrême. Je pense que c'est ensemble, et il y a différents modèles à explorer. Le modèle dont je vous parlais de Jean Martin Fortier, qui est d'ailleurs, moi je répète, un modèle qui vient d'Île-de-France à la base. Son bouquin, c'est le jardinier maraîcher, c'est bien cela. Et ben ça, c'est un modèle à pousser selon nous.
Et ben voilà un livre. Ouais, c'est vrai. Le livre de Jean-Martin Fortier qu'on vous mettra en lien. Où est-ce qu'on peut manger aujourd'hui des produits terroirs d'avenir au restaurant?
Ben, j'ai dans plein de belles adresses.
C'est quoi si tu avais là une adresse coup de cœur à partager?
Moi, j'ai toujours. À chaque fois que je dis ça, généralement, je reçois un texto pour me dire que c'est sympa de ne pas nous avoir cités. je vais un peu toujours chez les mêmes. Donc, moi, j'aime beaucoup le Vervolé, j'aime beaucoup le Baratin, j'aime beaucoup le Chateaubriand. J'aime beaucoup Septime, Yamcha, l'Astrans, là maintenant il est au Sénat, le Kitchen Gallery.
Et puis, cantine de quartier pour quelqu'un qui veut un restaurant très accessible?
Les marmites volantes.
Les marmites volantes.
C'est génial. Voilà, ça c'est un super exemple de ce qu'elles font. C'est merveilleux. Je trouve que elles ont tout compris, quoi. Et Ariane avec qui on a bossé pendant plusieurs années, et quelqu'un de hyper engagé et qui a une énergie folle pour relever tous les défis qui sont face à elle. En tout cas, elle répond très bien à la question, et on parlait d'accessibilité avec les marmites. On a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup, et son menu de midi, c'est, je crois, c'est 12 euros ou 13 euros, quoi.
Même pas, je crois. Je crois que le végétarien, il a 10,
voilà,
10
donc,
euros.
Je pense qu'on a répondu à toutes les interrogations, et son modèle est
moins cher qu'un menu Big Mac, je précise.
Voilà, donc il est possible de bien manger, mais c'est sûr qu'on peut pas manger tout. Voilà, on peut pas, en fait, le piège dans lequel on est tombé, je pense, avec l'industrie, c'était de croire qu'on peut manger du saumon tous les jours, du foie gras tous les jours. Du bar tous les jours, en fait, et ça a conduit du saumon d'élevage qui aujourd'hui est catastrophique, des élevages intensifs, des élevages intensifs d'animaux et aussi poissons. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut que les gens ils s'intéressent et ils se posent des questions.
Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on met dans son corps et qui nourrit notre santé. Donc c'est presque étonnant qu'on se pose pas autant de questions sur ce sujet. Ma dernière question, juste pour Ariane Delmas, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est la fondatrice des Marmites Volantes. Ouais. Vous pouvez l'entendre dans ce podcast, dans un épisode des Militants de l'Assiette que je vous recommande très chaudement. C'est quoi l'avenir pour Terroir d'Avenir?
L'avenir, c'est la volonté de créer une entreprise qui aura le plus d'impact possible. Et on croit que la multiplication des magasins, l'augmentation des producteurs avec qui on travaille ira dans ce sens.
Donc sortir hors de Paris à terme?
Déjà Paris, il y a de quoi faire, banlieue aussi. Mais si vous voulez, en fait, si on veut vraiment faire changer les choses, il faut y aller. Il faut être aussi un peu décomplexé avec tout ça. En tout cas, nous, on a répondu à ceux qui jugent cette équation complètement impossible, à savoir comment tu grandis en maintenant ta qualité. Nous, on a réussi ce défi parce qu'on a multiplié le nombre de producteurs. On a démarré avec 6 producteurs. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 300. On a plus de 70 maraîchers. Alors oui, c'est plus difficile, mais ça permet de répondre au volume et de maintenir la qualité. Et nos produits sont beaucoup plus qualitatifs qu'ils n'étaient il y a 13 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a acquis du savoir-faire, qu'on a des équipes en interne qui sont incroyables, qui sont, tout le monde est passionné chez nous, tout le monde s'investit, et je pense que les gens s'investissent plus chez nous que dans d'autres entreprises parce que ils savent qu'ils contribuent à un projet qui a du sens, ils savent qu'ils contribuent à un petit changement local qui pourra peut-être devenir un peu plus grand. En tout cas, nous, notre volonté avec Sam, c'est de développer cette entreprise parce qu'on croit que qu'une activité qui est bien organisée, bien ficelée, aura plus d'impact que si on reste tout petit. Alors après, quand je dis ça, c'est aujourd'hui, je vous dis, hein, on a 12 magasins répartis dans 4 rues, donc on va pas.
C'est déjà bien.
C'est déjà énorme, mais
ça fait presque un magasin par an.
Ça fait presque un magasin par an, ouais. Mais voilà, je pense que les gens, on a aujourd'hui des supermarchés à tous les 100 mètres dans Paris. Voilà, pourquoi il n'y aurait pas une troisième voie, quoi.
Merci beaucoup, Alexandre.
Merci, Fanny.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille.